Alors, si je me présente, moi, donc moi, je suis Sonia Pareux et je suis éducatrice spécialisée. Et je travaille pour l'association APAGE 37, qui est l'association pour jeunes et adultes handicapés, qui est à la base aussi une fédération nationale, qui accueille. Alors, nous, on a plusieurs antennes dans le département et on accueille essentiellement alors, des enfants tout petits qui présentent des troubles divers et variés, des troubles du comportement, des troubles de la relation, des dysphasies, des dyspraxies. Voilà, on accueille les enfants en ambulatoire dans nos services et ils repartent chez eux le soir. Hein, et moi, je suis sur un dispositif qui est à part.
Ok, donc la page 37, c'est un acronyme, c'est de l'association pour les adultes et les jeunes handicapés.
Voilà, alors nous, on n'a pas d'adultes. Il y a une association, la page, qui est à Loche et là, qui accueille des adultes. Nous, en tout cas, la page 37, dans laquelle moi, je suis salariée, accueille des enfants jusque, puisqu'on a un bureau d'aide universitaire pour les étudiants, donc j'imagine aux alentours de 22, 23 ans.
Ça reste voilà. Les jeunes, en tout cas.
Voilà.
Et c'est situé où ?
Alors, le siège, il est à Tournord, 5 rue de Hollande. Et puis après, on a différentes antennes. Alors, on a une antenne à Jouy-les-Tours. On a une antenne à Langeais, Ligueuil, Amboise, Tournord. Et puis après, on a d'autres établissements. Le centre régional d'audiophonie infantile pour des enfants qui présentent des troubles de la surdité, avenue de la Tranchée. Et puis, on a aussi un service de soins à domicile qu'on appelle un CESAD, qui est dans le quartier du Sanitas.
La page 37, c'est quelque chose qui existe depuis combien de temps ?
Oh, alors j'ai pas de date en tête, hein, mais c'est quand même une association, enfin en tout cas une fédération assez ancienne, qui n'est pas une association de parents, mais en tout cas avec un bureau aussi, et un bureau à la fédération. Les locaux sont à Paris, je crois, en face de la gare Montparnasse.
Justement, si c'est pas une association de parents, c'est qui a décidé de créer, en fait, comment ça s'est monté, parce que maintenant c'est une association nationale
Alors, je pense que c'est des gens qui sont aussi à la fois touchés peut-être par le handicap, peut-être de loin. En tout cas, nous, on a un président qui s'appelle Jacques Biringer. On a, qui était d'ailleurs un ancien directeur d'école et qui a toujours été sensibilisé au handicap et à la différence et qui milite d'ailleurs dans ce cadre-là et qui soutient les initiatives du pôle ressources dont on va parler très certainement après.
Justement, juste avant de venir au pôle ressources, comme vous l'avez dit, c'est un réseau, en fait, la page, c'est une fédération, donc c'est partout en France.
Alors oui, il y en a dans, par exemple, je sais qu'il y a des institutions dans le Loiret, il y en a aussi, puisque j'ai travaillé il y a assez longtemps dans la page 41, du côté de Vendôme, oui, il y en a un petit peu partout en France.
Et ça communique, c'est un vrai réseau, alors c'est des pôles indépendants.
Alors il y a des pôles indépendants, après la fédération tente évidemment de réunir et de travailler en réseau, puisqu'il y a aussi des trophées qui sont organisés avec des artistes qui prônent aussi cette question du handicap et de la différence. Donc voilà, oui, les gens, on anime parfois, je vais à Paris où on rencontre d'autres professionnels et on essaie de réfléchir ensemble à l'amélioration, en tout cas de l'accueil des personnes qu'on reçoit dans nos institutions. Bien sûr, oui, il y a des choses qui sont...
Donc oui, ça marche vraiment comme un réseau. Vous, votre rôle, vous travaillez donc, vous êtes éducatrice spécialisée et vous travaillez plus particulièrement au pôle ressources. Qu'est-ce que c'est le pôle ressources et quel est votre rôle en fait ?
Alors, moi, je suis sur une mission, alors je ne vais pas dire à part parce que je suis vraiment salariée de la page, mais je suis financée par un... généralement, les établissements médico-sociaux, les hôpitaux par exemple, on est financé par l'Agence régionale de la santé. Et moi, je suis sur un dispositif à part qui est financé par la CAF de Tours, donc un pôle ressources handicap. Et l'idée, c'est, alors c'est au niveau plus national, chaque département a une CAF et au niveau national, il y a une CNAF et qui a décidé de se préoccuper de la question des enfants handicapés dans les structures ordinaires et qui a donné des fonds aux CAF des départements en disant écoutez, faites quelque chose pour qu'il y ait plus d'enfants en situation de handicap dans les structures de droit commun, donc les crèches, les centres de loisirs. Et donc la CAF de Tours s'est saisie de cette opportunité et s'est dit, nous on a envie qu'il y ait des enfants porteurs de handicap dans les structures, on va lancer un appel à projet, on verra qui répondra et c'est la page qui a remporté, donc on va pas parler de marché mais en tout cas qui a eu les meilleures solutions à proposer et donc on a monté ce pôle ressources sur des financements de la CAF. Alors je suis pas toute seule à porter ce pôle ressources, il y a aussi l'association Achille et Cispéo Petite Enfance. En l'occurrence, moi, ma mission, elle est de faire en sorte que les enfants en situation de handicap, les enfants qui présentent des différences, les enfants qui ont des maladies, puissent avoir leur place dans les structures ordinaires. Donc moi, je favorise l'accueil de ces enfants en crèche, en centre de loisirs, chez des assistantes maternelles. Donc un accompagnement des familles. Et puis aussi, j'accompagne les professionnels. Par le biais de formation parfois, par le biais d'observation sur site, les professionnels qui parfois rencontrent des difficultés aussi par manque de formation.
Ok, ça s'adresse aux enfants, comme on l'a dit, mais à quel type de handicap
Alors, en tout cas, moi, je suis beaucoup sollicitée pour des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique. Donc, généralement, en fait, ça fait 7 ans qu'on est en place, ce pôle ressources. Donc, les familles commencent à me connaître aussi. Et du coup, je suis interpellée soit par des familles, soit par l'hôpital de Bretonneau, soit par l'hôpital de Clocheville. Et des enfants qui présentent des troubles. Alors oui, des enfants qui peuvent être autistes, des enfants aussi parfois polyhandicapés, des enfants qui peuvent être appareillés, des enfants qui vont présenter des maladies comme la mucoviscidose. Je me souviens, dans un de mes premiers accueils, c'était un enfant qui avait ce qu'on appelle une gastrostomie ou une sonde nasogastrique. Non, je crois qu'il avait une gastrostomie. Donc, c'est un enfant qui ne pouvait pas être nourri par la bouche, mais du coup, qui était nourri directement dans l'estomac. Donc ça a été un de mes premiers accueils.
Et il y a beaucoup d'enfants qui sont suivis par ce pôle ressources.
Alors, j'ai que les chiffres. Je suis désolée, de 2015 en tête, il y a eu... En fait, ce qu'il faut savoir, je vais rajouter quelque chose, c'est que si la CAF, elle s'intéresse de près à cette question de l'inclusion des enfants porteurs de handicap, c'est que c'est elle qui finance, par exemple, quand un enfant est reconnu handicapé, la famille, elle perçoit une allocation qu'on appelle l'AEH. C'est un petit peu technique, laissez tomber. Elle perçoit une allocation. Et puis, les structures petite enfance, elles perçoivent aussi de l'argent. C'est-à-dire que quand une famille, elle inscrit son enfant dans une crèche, elle ne va pas payer 10 euros de l'heure. Il y a un coefficient familial qui s'inscrit avec la CAF et les familles, elles ne payent pas cher. Donc ça, c'est aussi la CAF qui finance. Pareil pour les centres de loisirs. Donc elle s'est dit, en faisant une petite enquête, la CAF, elle s'est dit, bon sang, il y a... Alors, en 2015, il y avait... en 2015, on a 262 enfants porteurs de handicap de moins de 6 ans. Et à l'époque, en 2010, elle avait regardé un petit peu les chiffres. Elle s'était dit, on ne comprend pas. En 2010, on finance, je ne sais plus à l'époque, peut-être 250 familles qui ont un enfant porteur de handicap. Et pour autant, dans les structures, il n'y a pas d'enfants. Où sont les enfants porteurs de handicap ou malades? Et comment font les familles pour avoir du temps de répit? Et qu'est-ce qui fait qu'elles n'osent pas aller frapper à la porte des structures? Et par exemple, pour vous donner un chiffre, en 2011, quand moi j'ai démarré le pôle ressources en 2010, donc un an après, il y avait 10 000 heures réalisées dans les structures petite enfance d'enfants porteurs de handicap. En 2015, on est à 68 472 heures réalisées.
Oui, donc ça montre qu'il y a eu une vraie évolution et qu'il y a eu un vrai impact dû au pôle ressources.
Un vrai travail. En fait, le fait d'accompagner les professionnels, d'abord, ils sont un peu plus rassurés. Et puis, il y a un véritable aussi engagement, je trouve, du département. Un véritable réseau qui s'est constitué avec toutes ces structures, les unes avec les autres, avec le département aussi qui s'engage, avec la CAF qui soutient beaucoup le projet, avec la PAGE aussi qui me donne les moyens de fonctionner, avec des signatures de chartes que j'organise assez régulièrement où des partenaires viennent signer. L'idée, c'est d'être un peu connu pour que les gens, les familles en tout cas, elles puissent appeler. J'espère que là, par exemple, en parlant à votre micro, il y a une famille qui va entendre et peut-être on pensera à mettre mes coordonnées à la fin pour que ces familles... parce que les familles, elles sont souvent pas abandonnées, mais en tout cas, quand on leur apprend le handicap de leur enfant, c'est parfois bien douloureux et bien... avec beaucoup de souffrance, d'angoisse. Donc c'est important qu'on soit là à la fois. Moi, ma mission, c'est le soutien aussi aux familles et puis le soutien aux professionnels. Et oui, ça fonctionne plutôt pas mal.
Et c'était dû à quoi, justement, le fait que les enfants en situation de handicap ne se retrouvaient pas en crèche
Alors, il y a une petite enquête qui a été menée. Alors, de la part des familles, c'était surtout qu'elles n'osaient pas aller frapper pour pas, elles osaient pas imposer leur enfant différent.
Mais c'est pas par honte, c'est plus par...
Alors il y a aussi cette question-là du regard de l'autre, bien évidemment, hein, puisqu'il y a encore des réflexions qui se font qui sont pas très sympas. Mais en tout cas, voilà. Et puis des fois, elles me disent, mais si on vous avait connu avant, celle que je vois après pour les centres de loisirs, si on vous avait connu avant pour la crèche, mais je dis, mais pourquoi vous y êtes pas allé? Mais nous, on pensait qu'on n'avait pas le droit, que c'était interdit pour nous. Voilà, il y a aussi cette question.
Ouais, il doit y avoir cette question. Ouais,
on savait pas qu'on avait le droit ou qu'elles étaient formées. Et puis les structures, c'était plutôt, on sait pas faire. On n'est pas éducateur spécialisé, on sait pas faire. Et du coup, moi, je travaille dans le sens où on est formé. Alors, les éducateurs spécialisés, on sait pas tout. Vous êtes éduque de jeunes enfants, auxiliaire de puère. Et avant tout, on a choisi d'accueillir tous les enfants. Et pas de choisir de ne pas accueillir un enfant qui a une sonde nasogastrique ou un enfant qui est autiste. On a choisi d'accueillir les enfants.
Et pour les structures, ça implique quoi? J'imagine que doit y avoir plus d'éducateurs, justement.
Alors, c'était pas le... En 2010, je crois, ou en 2009, la CAF, elle mène une enquête pour savoir quels sont les freins, justement, à ces accueils. Et on se rend compte que c'est pas forcément le manque de professionnels, c'est plutôt un manque de formation. Et en fait, et surtout... Surtout la peur d'accueillir, la peur de ne pas savoir faire, la peur, la question aussi je ne vais pas y arriver, ça va me faire du mal, alors qu'un enfant en situation de handicap, il n'est pas forcément en souffrance, une sorte de pitié un peu, non, je vais pas le sentir. Après, on a aussi nos propres limites, et puis on a tous un vécu personnel qui fait que parfois il y a des professionnels, et je l'entends complètement, moi je ne peux pas, ok. Ok, on va faire autrement, on a tous nos limites et voilà quoi. Après, on a aussi des mâles pédagogiques de sensibilisation qu'on fait circuler dans les structures. On est deux collègues sur le département.
La sensibilisation, j'imagine que c'est une grosse part dans tout ça.
Mais oui, parce que...
C'est important en tout cas.
Alors c'est important parce que finalement, la question de la différence ou du handicap, elle fait bien peur, mine de rien. Alors elle fait pas peur aux tout petits dans les structures petite enfance, mais elle commence à être un peu plus où on entend des parents qui disent « Ouais, est-ce que vous pourriez intervenir parce que là on se moque de mon enfant ?» Alors on va dire plutôt dans les écoles ou là... Dans les crèches, ça se passe plutôt bien. Donc nous, on a des mâles pédagogiques. On a 8 mâles avec ma collègue, avec des livres dedans. Alors des livres à la fois destinés pour les parents, pour les professionnels, pour les enfants, avec des livres sur la différence, sur le handicap, sur la maladie. On a des DVD, on a des marionnettes, on a des plaques tactiles. Alors, c'est pas exhaustif, hein, nos mâles, on pourrait y mettre plein d'autres choses dedans. On a choisi, en tout cas, de les mettre à disposition des structures et de donner l'envie, par exemple, on a un fauteuil roulant dedans avec un enfant, et de donner l'envie aux structures de pouvoir acheter des choses en lien avec le handicap. Allez-y, non, je vous en prie.
La meilleure façon de sensibiliser, c'est des gros événements. Et là, il y a un gros événement qui se prépare. C'est un festival Autrement dit.
Yes.
Comment ça s'est monté, ce festival? Comment ça s'est créé? Déjà, Autrement dit, pourquoi?
Alors déjà, Radio Campus, merci de m'accueillir ce soir. Et puis, c'est donc la première fois qu'on va pouvoir en parler, puisque les contrats sont signés, tout ça. Alors, le festival Autrement dit... Chaque année, on présente un rapport d'activité à l'ensemble de partenaires, donc des gens du conseil départemental, des gens de l'éducation nationale, plein de parts de la CAF, de différentes associations. Et puis ce jour-là, je ne sais plus quand c'était, je fais mon rapport d'activité de 2015 et je me dis « Ouais, j'organiserais bien un truc un peu plus festif ». Et je me souviens quelqu'un qui dit dans la salle « Et si on faisait un festival ?» Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, puisque avant d'être éduque, j'ai travaillé dans une salle de concert et j'ai aussi été tourneuse de groupe. Voilà, je bookais des groupes et je me suis dit « Oh là là, monter un festival en plus quand on est éduque et avec un vrai sens, là ça va vraiment, ça va être bien ». Et donc on s'est réunis à plein de partenaires du département et puis on a décidé d'écrire en tout cas un projet sur un festival sur l'accessibilité universelle. Vous allez me dire, c'est quoi tout ça?
Exactement. Donc ça vient d'être signé là, ça a mis longtemps déjà, mais à être...
Alors ça fait, on va dire, un an et demi qu'on est en train de le construire. Alors progressivement, des nouvelles personnes s'ajoutent, des nouvelles associations s'engagent. Alors c'est quoi ce gros mot, l'accessibilité universelle quand même? Qu'est-ce que ça vient nous rappeler tout ça? Nous on s'est dit, bon, alors il y a des concerts, mais dans la vie il y a des personnes sourdes, dans la vie il y a des personnes en fauteuil, dans la vie il y a des enfants polyhandicapés ou des personnes polyhandicapées, dans la vie il y a aussi des personnes qui voient pas. Comment elles font pour accéder à la culture? Donc on s'est dit, ben voilà, on va contacter des groupes, on va faire la traduction en langue des signes des groupes. Donc c'est le service Tour de Main qui va interpréter tous les spectacles en langue des signes. Puis on s'est dit, puis ce qui serait bien aussi, c'est pas que d'adapter pour les personnes en situation de handicap, ça serait bien aussi qu'on mette un peu en exergue des potentiels chez les personnes handicapées. Donc on a décidé aussi de mettre par exemple de la danse en fauteuil, de mettre du théâtre avec des personnes en situation de handicap, de faire un cinéma pour l'oreille avec des sons de la nature, de faire Kiki en chanson, c'est des chants, ça va être des chansons avec François Bernet mais Victor Laszlo sur la différence. On a décidé de, il va y avoir des batucadas aussi d'enfants d'instituts médico-éducatifs. En fait, voilà, il va y avoir une programmation sur une grosse scène avec la vache qui rock, avec l'escalator, avec Anton Hawk, et on a une jolie tête d'affiche. Et voilà, on
qui
est bien.
Est On peut le dire,
bien fait. Ouais, on peut le dire à partir de maintenant, qui sera donc trio qu'on choisit de s'engager dans la question de la différence et d'un mieux vivre ensemble. Donc, ils nous font vraiment un beau cadeau que d'être là le 10 juin.
Tous les acteurs, j'imagine, d'ailleurs, ont choisi de s'engager. Ils le font pour la cause, ils le font...
Complètement, complètement. On est vraiment... alors, des personnes... Alors, il y a aussi des parents qui sont suivis au pôle ressources que j'accompagne, qui sont bénévoles. Et ça aussi, c'est intéressant parce que, à la fois, on prend en compte la dimension, en tout cas, de leurs enfants, leur place qu'ils ont avec, au milieu de tous, dans la cité des hommes. Donc ça, c'est intéressant de se dire... les parents, enfin, voilà, ils sont super contents d'être bénévoles. Ils ont plein d'idées et ça donne, je trouve, des perspectives nouvelles aussi. Si ils sont pas tout seuls, on se bat pour eux quoi. On a envie que leurs gamins ils aient leur place avec nous. Donc voilà. Et puis il va y avoir les Blues Notes qui seront là aussi, qui jouent à l'hôpital Clocheville. Il va y avoir des projections. On va pas tout dire parce qu'on va laisser des surprises. Quand même.
Et puis surtout, la programmation a l'air très chargée, très complète. Comment tout ça, ça tient dans une journée?
Ah bah ça, c'est une organisation de tous. Ça sera au Cirque Georges Alouine. J'ai oublié de préciser. Donc le 10 juin, ça va y aller. C'est une programmation. Voilà, il va y avoir un petit peu de tout. Tout le monde y trouvera son compte et on est à peu près 200 bénévoles et tout le monde est super motivé et c'est chouette. Tous les jours, il y a des nouvelles initiatives.
Et tout se passe sur un seul site, toutes les activités qu'on vient de citer, tous les concerts, tous les...
Alors, il y a le Cirque Georges, donc avec des choses dans le chapiteau, avec des choses sur une scène, avec des choses en extérieur, avec la Grange de Luynes aussi. Je remercie beaucoup la ville de Luynes et le Cirque Georges qui s'impliquent, avec une inauguration aussi. Et il y a la Grange qui est une petite salle plus loin, où il va se passer aussi des choses. Puis il y a du off. Il y a du off, c'est-à-dire que des artistes iront jouer à l'hôpital Clocheville. Ça aussi, je peux le dire, j'ai eu l'autorisation hier de pouvoir dire Clocheville. Donc, je le redis. Donc, il va y avoir des artistes à l'hôpital Clocheville le 29 mai, le 6 juin. Il y aura aussi le Césap de Reny pour des personnes polyhandicapées ou la Vache qui rock qui ira jouer le 7 juin, je crois, au Césap de Reny. Et les Blues Notes, si vous m'entendez, pour vous, c'est à l'IEM Charlemagne. J'attends la date.
L'objectif avec ce festival, avec cette journée, toutes ces activités, c'est évidemment de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir participer à un tel événement, mais aussi de sensibiliser
les personnes. Le regard.
C'est ça.
De changer le regard sur la différence. C'est-à-dire que quand on croise une personne en situation de handicap, bah, qu'on n'en ait pas peur, qu'on puisse la regarder normalement, qu'on puisse dire bonjour, tout simplement.
Est-ce que c'est des initiatives qui ont déjà été mises en œuvre, ce type de festival, tout ça réuni vraiment?
Alors, en Touraine, sur notre territoire, alors, il se passe des choses ailleurs, des initiatives qui vont être un peu plus locales. Par exemple, à Azel-Rideau, les familles rurales organisent avec Willy Bezard, qui est dans Croix-Génétique Action, je crois. Eux, ils organisent le 10 juin, c'est ballot, le même jour que nous, mais en tout cas, une initiative sur le pays d'Azel-Rideau, où ils vont faire du sport aussi, ils vont faire des actions de sensibilisation avec un repas à l'aveugle, avec la diffusion du film Patient de Grand Corps Malade, je crois qu'il est réalisateur. Donc il y a des initiatives un peu de manière locale. Après, il n'y a pas, on va dire pour l'instant, un gros festival qui va réunir tout ça. Voilà, Terre du Son, ils font aussi des concerts en langue des signes. Il y a plein de spectacles pour les gamins qui sont aussi voilà, traduits en langue des signes, accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Il y a des choses. Après, là, on va dire que... Mais ce qui est bien, c'est que c'est un événement où on est plein d'associations, on se regroupe tous et là, on est autour d'un projet commun et c'est ça qui est chouette.
Là, c'est, ouais, c'est vraiment l'idée de fédérer...
Tout le monde est ensemble, l'IRCOF qui est un institut pour enfants malvoyants et sourds, les ADAPI, l'IME Les Elfes, l'IME de Luynes, les artistes, les blues notes, l'asso Content d'y être, les parents, l'asso Au-delà de nos handicaps de Luynes, la ville de Luynes, le Cirque Georgé qui nous trouve plein de solutions, il y a des bénévoles de la ville de Tours, de la mairie de Tours, il y a des bénévoles de la maison départementale des personnes handicapées, il y en a plein, il y a plein de gens, des élus de Comcom, il y a tout plein de gens en fait, on a à peu près 200.
200 bénévoles.
Ouais, et voilà, et le plus gros travail c'était aussi de trouver des sous.
Oui, j'imagine de pouvoir monter tout ça, parce qu'évidemment ça coûte de l'argent.
Ouais.
Toutes les infos, toute la programmation, parce que j'imagine que c'est déjà pas mal instauré, mais ça va continuer à se...
Ouais.
On peut le retrouver ça où ?
Alors, je crois que dès aujourd'hui, vous pourrez nous suivre sur la page Facebook Festival Autrement Dit. Et là, vous serez au courant de tout. Et puis, les plaquettes et les flyers. Donc, d'ailleurs, c'est le service com de la CAF qui fait les flyers et les affiches. Et elles seront imprimées par le conseil départemental.
Voilà,
donc vous allez bientôt tout suivre et puis on a tous des emails et puis on a tous, tout le monde est sur Facebook sauf moi, je n'ai pas de Facebook, voilà, mais le Sébastien Lorieux, le chargé de communication des réseaux sociaux, va nous faire une com d'enfer.
Très bien, donc le festival ça sera le 10 juin à
10 juin, à partir de 13h30.
J'imagine qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Ça serait bien.